vêpres. Où Hubertin prend ses jambes à son cou, Barnes commence à observer les lois et Guillaume fait quelques réflexions sur les différents types de luxure rencontrés ce jour-là. Tandis que l'assemblée s'écoulait lentement de la salle capitulaire, Michel s'approcha de Guillaume et tous deux furent rejoints par Hubertin. Tous ensemble, nous sortîmes pour discuter dans le cloître, protégés par le brouillard qui n'avait pas l'air de vouloir décroître, les ténèbres le rendant au contraire plus dense encore. « Bernard nous a battus à plate couture, » dit Guillaume. « Ne me demandez pas si cet imbécile de le Dolcinien est vraiment coupable de tous ces crimes. Selon mon humble opinion, non, sans nul doute. Le fait est que nous en sommes au point de départ. Jean te veut tout seul en Avignon, Michel, et cette rencontre ne t'a pas fourni les garanties que nous cherchions. Elle t'a plutôt illustré comment chacune de tes paroles, là-bas, pourrait se rétorquer contre toi. De quoi il faut déduire, me semble-t-il, que tu ne dois pas y aller. » Michel secoua la tête. « En revanche, j'irai. Je ne veux pas de schisme. Toi, Guillaume, aujourd'hui tu as parlé clair et tu as dit ce que tu voudrais. Eh bien, ce n'est pas ce que je veux, moi, et je me rends compte que les résolutions du chapitre de Pérouse ont été utilisées par les théologiens impériaux au-delà de nos intentions. Moi, je veux que l'ordre franciscain soit accepté dans ses idéaux de pauvreté par le pape. Et il faudra que le pape comprenne que seulement si l'ordre prend sur soi l'idéal de la pauvreté, on pourra réabsorber ses ramifications hérétiques. Moi, je ne pense pas à l'assemblée du peuple ou aux droits des gens. Je dois empêcher que l'ordre ne se dissolve en une pluralité de fratricelles. J'irai en Avignon et, si nécessaire, je ferai acte de soumission à Jean. Je transigerai sur tout, sauf sur le principe de pauvreté. » Hubertin intervint. « Tu sais que tu risques ta vie ?»« Et ainsi soit-il, » répondit Michel. « C'est mieux que de risquer son âme. » Il risqua sérieusement sa vie et, si Jean était dans le vrai, ce que je ne crois toujours pas encore, il perdit aussi son âme. Comme désormais tout le monde le sait, Michel se rendit auprès du pape la semaine qui suivit les faits que je suis en train de raconter. Il lui tint tête 4 mois durant, jusqu'à ce que, en avril de l'année suivante, Jean convoqua un consistoire où il le traita de fou, téméraire, tête de mule, tyran, fauteur d'hérésie, serpent nourri par l'Église dans son sein même. Et j'ai tout lieu de penser que, dès lors, selon sa façon de voir les choses, Jean avait raison, car au cours de ces 4 mois, Michel était devenu ami de l'ami de mon maître, l'autre Guillaume, celui d'Occam. Et il en avait partagé les idées, pas très différentes, peut-être encore plus extrêmes, de celles que mon maître partageait avec Marcille et avait exprimées ce matin-là. La vie de ces dissidents devint précaire en Avignon, et à la fin mai, Michel, Guillaume d'Occam, Bonagrazia de Bergame, François d'Ascoli et Henri de Talheim prirent la fuite, poursuivis par les hommes du pape à Nice, Toulon, Marseille et Aigues-Mortes, où ils furent rejoints par le cardinal Pierre d'Arablay, qui tenta en vain de les induire à revenir, sans vaincre leur résistance, leur haine pour le souverain pontife, leur peur. En juin, ils arrivèrent à Pise, accueillis triomphalement par les impériaux, et dans les mois qui suivraient, Michel dénoncerait publiquement Jean. Trop tard désormais. La fortune de l'empereur déclinait. Depuis Avignon, Jean manigançait pour donner aux minorites un nouveau supérieur général, obtenant enfin victoire. Michel eut mieux fait ce jour-là de ne pas décider de se rendre auprès du pape. Il aurait pu veiller de près à la résistance des minorites sans perdre tous ses mois à la merci de son ennemi, affaiblissant sa position. Mais peut-être ainsi en avait décidé l'omnipotence divine, et je ne sais plus à présent qui d'entre tous était dans le vrai, et après tant d'années, même le feu des passions s'éteint, et avec lui ce qu'on croyait être la lumière de la vérité. Mais je me perds en divagations mélancoliques. Je dois en revanche dire la fin de ce triste entretien. Michel avait décidé, et rien n'y fit pour le convaincre de renoncer. À part qu'il se posait à présent un autre problème, et Guillaume l'énonça sans embâge. Hubertin lui-même n'était plus en sécurité. Les phrases que lui avait adressées Bernard, la haine que le pape nourrissait désormais pour lui, et puis Si Michel représentait encore un pouvoir avec lequel traiter, Hubertin, par contre, était demeuré seul, lui-même son propre partisan. Jean veut Michel à sa cour et Hubertin en enfer. Si je connais bien Bernard, d'ici demain, et avec la complicité du brouillard, Hubertin sera tué. Et si quelqu'un se demande par qui, l'abbaye pourra bien supporter un autre crime et l'on dira que c'était des diables évoqués par Remigio avec ses chats noirs ou quelques dolciniens rescapés qui hantent encore ses murailles. Hubertin était soucieux. « Et alors ? » demanda-t-il. « Alors, dit Guillaume, va parler avec l'abbé. Demande-lui une monture, des provisions, une lettre pour une abbaye lointaine au-delà des Alpes, et profite du brouillard et de l'obscurité pour partir sur le champ. » « Mais les archers ne gardent-ils pas encore les portes ? » ?»« L'abbaye a d'autres sorties, et l'abbé les connaît. Il suffit qu'un servant attende à l'un des tournants en contrebas de l'enceinte avec une monture, et en sortant par un passage dans les murs, tu n'auras qu'à faire un bout de chemin à travers bois. Tu dois agir de suite, avant que Bernard ne se remette de l'extase de son triomphe. De mon côté, je dois m'occuper d'une autre affaire. J'avais deux missions. L'une a échoué, qu'au moins n'échoue pas l'autre. Je veux mettre la main sur un livre et sur un homme. Si tout va bien, tu seras hors d'ici encore avant que je ne m'inquiète de toi. Or donc, adieu. » Il ouvrit les bras. Avec émotion, Hubertin l'étreignit fortement. « Adieu, Guillaume. Tu es un Anglais fou et arrogant, mais tu as un grand cœur. Nous reverrons-nous ? » ?»« Nous nous reverrons, le rassura Guillaume. Dieu le voudra. » Mais Dieu ne le voulut pas. Comme je l'ai dit déjà, Hubertin mourut tué dans des circonstances mystérieuses 2 ans plus tard. Vie dure et aventureuse que celle de ce vieux combatif et ardent. Peut-être ne fut-il pas un saint, mais j'espère que Dieu a récompensé son adamantine assurance d'être tel. Plus je deviens vieux, et plus je m'abandonne à la volonté de Dieu, et de moins en moins j'apprécie l'intelligence qui veut savoir et la volonté qui veut faire. Et je reconnais comme unique élément de salut la foi, qui sait attendre patiemment, sans trop interroger. Et Hubertin eut certainement grande foi dans le sang et dans l'agonie de notre Seigneur crucifié. Peut-être alors pensais-je à tout cela, et le vieux mystique s'en aperçut-il, ou devina-t-il que je le penserais un jour. Il me sourit avec douceur et m'embrassa, sans l'ardeur avec laquelle il m'avait saisi parfois les jours précédents. Il m'embrassa comme un aïeul embrasse son petit-fils, et dans le même esprit je lui rendis son étreinte. Puis il s'éloigna avec Michel pour chercher l'abbé. « Et à présent ? » demandai-je à Guillaume. « Et à présent, revenons à nos crimes. »« Maître, dis-je, aujourd'hui se sont passées des choses très graves pour la chrétienté et votre mission a échoué. Et pourtant, vous paraissez plus intéressé à la solution de ce mystère qu'à l'antagonisme entre le pape et l'empereur. »« Les fous et les enfants disent toujours la vérité, Atso. Ce doit être parce que, comme conseiller impérial, mon ami Marsile est plus doué que moi, mais comme inquisiteur, c'est moi le plus doué. » Plus doué même que Bernard Guy, Dieu me pardonne. Car ce n'est pas de découvrir les coupables qui intéressent Bernard, mais de brûler les prévenus. Moi, par contre, je trouve mon plus grand plaisir, ma plus grande joie, à démêler un bel écheveau bien enchevêtré. Et ce doit être encore parce que dans un moment où, comme philosophe, je doute que le monde est un ordre, je trouve une consolation à découvrir, sinon un ordre, du moins une série de liens dans les menus lots des affaires du monde. Enfin, il existe probablement une autre raison. C'est que dans cette histoire, il entre sans doute en jeu des choses plus grandes et importantes que la bataille entre Jean et Louis. Mais c'est une histoire de larcin et de vengeance entre moines de peu de vertu, m'exclamai-je plein de doute. Autour d'un livre interdit, Atso, autour d'un livre interdit, répondit Guillaume. Les moines, maintenant, s'acheminaient vers le repas du soir. Nous étions déjà au milieu du souper quand Michel de Cézennes vint s'asseoir à nos côtés en nous annonçant qu'Hubertin était parti. Guillaume poussa un soupir de soulagement. À la fin du repas, nous évitâmes l'abbé qui s'entretenait avec Bernard et nous repérâmes Bans qui nous salua avec un demi-sourire et tenta de gagner la porte. Guillaume le rejoignit et le contraignit à nous suivre dans un coin des cuisines. « Bantz, » lui demanda Guillaume, « où est le livre ?»«
Quel livre ?»«
Bantz, aucun de nous deux n'est un idiot. Je parle du livre que nous cherchions aujourd'hui chez Séverin et que je n'ai pas reconnu et que toi tu as fort bien reconnu et que tu es allé reprendre. »
« Qu'est-ce qui vous fait penser que je l'ai pris ? Je le pense, et tu le penses toi aussi. Où est-il ? » ?»«
Je ne puis le dire. » »«
Bantz, si tu ne me le dis pas, j'en parlerai à l'abbé. » »«
Je ne puis le dire par ordre de l'abbé, » dit Bantz d'un air vertueux. « Aujourd'hui, après que nous nous sommes vus, il s'est passé quelque chose que vous devez savoir. Béranger mort, il manquait un aide bibliothécaire. » Cet après-midi, Malaki m'a proposé de prendre sa place. Il y a juste une demi-heure, l'abbé a consenti, et à partir de demain matin, je l'espère, je serai initié au secret de la bibliothèque. C'est vrai, j'ai pris le livre ce matin, et je l'avais caché dans la paillasse de ma cellule sans même l'ouvrir, car je savais que Malaki me surveillait. Et à un certain point, Malaki m'a fait la proposition que je vous ai dite. Alors, de mon côté, j'ai fait ce que doit faire un aide bibliothécaire. Je lui ai remis le livre. Je ne puis m'empêcher d'intervenir et avec violence.
« Mais Bantz, hier et avant-hier, tu... »«
Vous disiez que vous brûliez de la curiosité de connaître, que vous ne vouliez plus que la bibliothèque renfermât des mystères, qu'un escolier doit savoir... »
Bantz se taisait en rougissant, mais Guillaume m'arrêta.
« Atso, depuis quelques heures, Bantz est passé de l'autre côté. » À présent, c'est lui le gardien de tous ces secrets qu'il voulait connaître. Et tout en les gardant, il aura tout le temps qu'il voudra pour les connaître.
« Mais les autres ?» demandai-je. « Bantz parlait au nom de tous les savants. »«
Avant !» dit Guillaume.
Et il m'entraîna, laissant Bantz en proie à la confusion.
« Bantz, me dit ensuite Guillaume, est la victime d'une grande luxure qui n'est pas celle de Béranger ni celle du Célérier. Comme de nombreux chercheurs, il a la luxure du savoir en soi. Exclu d'une partie de ce savoir, il voulait s'en emparer. Maintenant, il s'en est emparé. Malaki connaissait son homme, et il a utilisé le meilleur moyen pour ravoir le livre et sceller les lèvres de Bantz. Tu me demanderas à quoi bon contrôler une telle réserve de savoir si on accepte de ne pas le mettre à la disposition de tous les autres. Mais c'est précisément pour ça que j'ai parlé de luxure. Elle n'était pas luxure, la soif de connaissance de Roger Bacon, qui voulait user de la science pour rendre plus heureux le peuple de Dieu et ne cherchait donc pas le savoir pour le savoir. La curiosité de Bantz n'est qu'insatiable orgueil de l'intellect, une façon comme une autre, pour un moine, de transformer et apaiser les désirs de ses reins, ou l'ardeur qui fait d'un autre un guerrier de la foi ou de l'hérésie. Il n'y a pas que la luxure de la chair. Luxure que celle de Bernard Guy, luxure altérée de justice qui s'identifie à une luxure de pouvoir, luxure de richesse que celle de notre saint et non plus romain pontife, luxure de témoignage et de transformation et de pénitence et de mort que celle du Célérier dans sa jeunesse. Et celle de Bantz est une luxure de livre, comme toutes les luxures, comme celle d'Onan qui répandait par terre sa propre semence. C'est une luxure stérile, et elle n'a rien à voir avec l'amour, pas même avec l'amour charnel.
« Je le sais, » murmurai-je malgré moi. Guillaume fit semblant de n'avoir pas entendu. Mais, comme poursuivant son propos, il dit « L'amour vrai veut le bien de l'aimer. » Ne se peut-il que Bantz veuille le bien de ses livres, car désormais ils sont aussi à lui, et pense que leur bien est de rester loin des mains rapaces ? Demandai-je.
Le bien pour un livre, c'est d'être lu. Un livre est fait de signes qui parlent d'autres signes, lesquels à leur tour parlent des choses. Sans un œil qui le lit, un livre est porteur de signes qui ne produisent pas de concepts et donc il est muet. Cette bibliothèque est née peut-être pour sauver les livres qu'elle contient, mais maintenant, elle vit pour les enterrer. Raison pourquoi elle est devenue source d'impiété. Le Célérier a dit qu'il avait trahi. C'est aussi ce qu'a fait Bantz. Il a trahi.
Oh, quelle sale journée, mon bon Atso, pleine de sang et de ruines. Pour aujourd'hui, j'en ai assez. Allons-nous aussi accomplis, et puis nous irons dormir.
Au sortir des cuisines, nous rencontrâmes Aïmaro.
Il nous demanda si ce qui se murmurait était vrai, que Malachi aurait proposé Bans comme son aide. Nous ne pûmes que confirmer.
Ce Malachi a fait de fort belles choses aujourd'hui, dit Ahimaro avec son habituel ricanement de mépris et d'indulgence. S'il y avait une justice, le diable viendrait le prendre cette nuit même.